Le miroir, par Maurice Level. La maison où je naquis, où moururent mon père et ma mère, s'adosse à un bois de sapin. Ses murs s'effritent lentement, son toit disjoint se couvre par endroits d'une végétation étrange. Ses volets verts sont maintenant d'un gris indécis, et de grandes moisissures descendent tout le long de la porte. Le jardin contourne une grille mangée par la rouille, n'a guère plus de 20 mètres de large. Les arbres y ont poussé si dru, les plantes si sauvages, qu'en toute saison monte de la terre, chargée de feuilles mortes et de branches, une odeur humide d'automne. Telle qu'elle est, je pourrais en tirer une 15 000 francs, et à mon âge, pauvre et résigné comme je suis, 15 000 francs serait presque une fortune. Je n'aurai qu'un mot à dire, pour manger à ma faim et m'endormir au chaud. Ce mot, je ne le dirai pas. Lorsque le hasard de la route me ramène dans le pays, je rôde autour de ma maison. Je regarde loin son toit pointu. Si je grelotte trop sous mes haillons, je vais jusqu'à la grille. Je prends la clé dans ma poche et je l'approche de la serrure. Je me dis qu'entre ces murs, je n'aurai plus à redouter la pluie. Qu'au premier étage, il est une chambre avec un grand lit au drap blanc qui fleure la lavande, où il fera bon dormir sous la caresse du feu clair. J'approche encore. Je vais ouvrir. Soudain, la peur me prend, et je m'enfonce en courant dans le bois. Le souvenir de la nuit où je franchis ce seuil pour la dernière fois vient de se dresser devant moi, et je peux dire que, en cette seule nuit, j'expiais toutes les fautes que j'ai pu commettre. À la mort de mon père, maître de ma fortune, je m'étais mis à jouer. Mes revenus ne me suffisant plus, j'attaquais mon capital. Quand la partie avait été mauvaise, je vendais une ferme, un bois, une prairie, m'imaginant que la veine allait revenir, que je rachèterais. Mais la veine revenait si peu qu'un jour mon notaire m'annonça qu'il ne me restait de mon patrimoine que la vieille maison. J'allais télégraphier, vendre. Une espèce de honte me retint. Vendre ferme, prairie et bois, c'était fort bien, mais vendre la maison où j'avais grandi, où mes parents avaient voulu s'éteindre, la maison pleine de tous leurs rêves et de mes souvenirs, non. Bientôt mes scrupules s'apaisèrent, goutte à goutte la tentation descendit en moi. J'y résistais 3 jours, 3 jours de torture. Le 4e, n'y tenant plus, assoiffé de jeu comme un morphinomane est assoiffé de son poison, je pris le train, décidé à revoir la demeure une dernière fois, à emporter quelques bibelots, des portraits de famille, puis la vendre. Je partis. D'abord, je rôdais par le bois, n'osant, malgré l'obscurité, me montrer dans le village, glissant de taillis en taillis comme un voleur. Il pouvait être minuit quand j'arrivais devant ma maison. Je ne l'avais pas revue depuis 2 ans. Elle me parut toute petite, vieille, triste. Tandis que je contemplais ses murs, toute mon enfance passait devant mes yeux attendris. Je revoyais mon père assis au coin du feu, ma mère devant son piano surmonté d'une très ancienne glace de Venise, et le calme des chères soirées d'hiver descendant moi, je songeais. Laisse dormir cela, n'entre pas. Puis, brusquement, j'eus au bout des doigts la sensation des cartes, dans les oreilles les bruits de la salle de jeu, et ce fut plus fort que moi, plus fort que tout. La grille franchie, je gravis le perron et j'entrai. À peine avais-je refermé que mes clés glissèrent de mes doigts et tombèrent. Je ne les retrouvai qu'après un temps assez long, sous un coin de tapis. J'étais devant la porte du salon, mais l'humidité en avait si bien disjoint les bois, rouillé les gonds, que je ne pus l'ouvrir. On eût dit en vérité que les choses ne voulaient point que je franchisse ce seuil, que les choses se plaisaient à m'empêcher de passer. Une colère me saisit, et je donnai un coup d'épaule si brutal que la porte se fendit dans toute sa hauteur. Je pris sur la table un bougeoir que mon père avait coutume de laisser là, le soir, et l'ayant allumé, je regardai autour de moi. Tout m'était familier dans cette pièce. Les yeux fermés, j'aurais contourné chaque meuble, touché d'un doigt prudent le plus fragile bibelot, ouvert à la page préférée le livre oublié sur un fauteuil. Une cigarette à peine entamée dépassait le marbre d'une console. Dans la cheminée, une bûche ronde était posée sur des sarments tordus. La nuit était si calme que j'entendais le frisson des gouttes de pluie dans les arbres. Comme il faisait froid, je m'agenouillais devant la cheminée et j'en approchais une allumette. Aussitôt, un ronflement joyeux emplit la pièce et des lueurs dorées se mirent à danser le long des murs. Il faisait tiède, je me sentais chez moi, et cela m'était doux au cœur de me retrouver parmi des choses qui me connaissaient. Je m'assis dans une bergère, et je ne pensais plus à rien. Alors, pour la seconde fois, le souvenir du jeu traversa mon cerveau, et avec lui, l'image de ma ruine. Je me vis traînant la misère, honteux, affamé, incapable de gagner ma vie, tel que je suis maintenant. Et la tentation revint. Je murmurai. Ruiné. Une voix répondit dans ma tête. « Mais non, tu n'es pas ruiné. Cette maison t'appartient. Tu ne dois compte de tes actes à personne. Vends-la donc. Pourquoi traiter ces murs ainsi qu'un chien fidèle qu'on redoute de voir passer à d'autres maîtres ? L'âme de tes morts n'est plus ici. Tu l'as pourtant toi. Et pour t'être défait de quelques pierres, entre lesquelles la vieillesse de tes parents s'abrita, tu n'auras point cessé d'honorer leur mémoire. » Les sarments étaient brûlés, la bûche se consumait sans bruit. Des ombres plus épaisses coulaient des meubles sur le plancher, et mes yeux ne pouvaient se détacher de deux portraits qui se faisaient vis-à-vis sur la liseuse. Le portrait de mon père et celui de ma mère. Quand j'étais tout petit, je les aimais, car ils me souriaient dans leur cadre. Mon regard, à cette heure, n'osait ni les caresser ni les fuir. J'avais honte devant eux, mais le besoin d'argent, la peur de la misère m'affolait. J'étendis la main, je les pris. Aussitôt, j'eus la sensation d'avoir troublé dans leur sommeil ces pauvres morts. J'aurais voulu replacer ces portraits, m'enfuir. Il était trop tard. Mon geste avait rompu le charme, je les avais chassés de chez eux à jamais. Et tout à coup, ayant levé les yeux, j'aperçus, reflété dans la vieille glace de Venise, un visage effrayant, livide, un visage que je reconnus à peine tant l'épouvante l'avait contracté, et ce visage qui était le mien me regardait avec mes yeux terribles. Comme je restais là, stupide, serrant entre mes doigts les deux petits portraits, il me sembla entendre un grattement. Je voulus me sauver. La peur paralysait mes jambes. Je ne démêlais plus ce qui se passait en moi. Je me regardais seulement souffrir dans le miroir. Or, soudain, dans ce miroir terrible, mon visage plus blême trembla. Mon front, où des ombres livides m'étaient comme des doigts, s'inclina. Mes épaules s'enfoncèrent. Ma bouche s'estompa. Mes joues s'effacèrent. Mes yeux se noyèrent dans le noir. Puis mon front, mes cheveux, puis... Je ne vis plus rien. Il ne subsista devant moi qu'un carré d'ombre dont mon visage était parti. Vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas comprendre l'horreur qui m'envahit. Je portais mes mains à ma figure, j'enfonçais mes ongles dans ma chair, et j'éprouvais une effrayante joie à les voir éclabousser de sang. J'étais là, vivant. J'avais eu une hallucination. J'allais me revoir. Mais j'eus beau regarder éperdument, frotter mes yeux, tendre le cou, le miroir ne reflétait plus rien. Une pensée sauta sur moi. Tu es fou. Je courus à la cheminée, j'allumai tous les flambeaux, j'étendis les poings au mur et je hurlai, pensant que peut-être ma voix allait éveiller ma raison. Regarde-toi, regarde-toi. Et je ne vis, pour la troisième fois, que le sinistre carré d'ombre. Ce qui se passa ensuite, je ne sais plus. Quand je revins à moi, les cendres de la cheminée étaient froides, les flambeaux éteints. Par les fenêtres entrait la clarté indécise du crépuscule, et le souvenir de la nuit me revint. Je rampais vers le miroir, m'accrochant au meuble. Je m'appuyai pour me redresser au piano. Il glissa. J'entendis un bruit semblable à celui que pourra faire une feuille de métal tombant doucement sur le sol. Je me ruai vers la fenêtre. D'un coup de poing, j'ouvris les volets, et je vis ceci. Du miroir, d'où mon visage avait fui, il ne restait que le cadre et la vitre. La plaque de métal poli qui tenait lieu de teint dans les glaces de Venise, trop lourde pour le bois vermoulu, était descendue lentement, puis avait glissé entre le mur et le piano jusqu'au plancher. En d'autres temps, j'aurais souri de ma frayeur. J'aurais pensé que le miroir était mort de la mort des très vieilles choses. Mais je ne crois plus au hasard. Je sens que ce miroir s'éteignit pour ne plus refléter mon image, qu'il me chassa de la maison, comme j'en avais voulu chasser mes parents. Je sens, je sais que, en cette triste nuit, les choses qui m'avaient vu grandir eurent une âme douloureuse, révoltée, et c'est pourquoi j'ai refermé à tout jamais la porte de la pauvre maison. C'était Le Miroir par Maurice Level.